RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir. Pierre.
Alors dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons Marlène Schiappa, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais notre première invitée est Emmanuel Todd, historien, démographe, anthropologue et auteur aux éditions du Seuil de « Où en sommes-nous ?», une esquisse de l'histoire humaine. Bonsoir.
Bonsoir. Et
merci d'être avec nous. Alors, votre livre part d'une interrogation commune. Dans le fond, pourquoi le monde va mal? Et comme vous êtes démographe, vous cherchez dans votre domaine ce qui cloche. Vous êtes convaincu que le malheur vient de l'économie. Et vous pensez que ce qui compte le plus aujourd'hui, ce sont les trois piliers que constituent la famille, l'école, la religion. Et vous faites le constat que nous vivons sur un modèle consumériste, hein, en clair le modèle américain, dites-moi si je me trompe ou pas dans la lecture de votre livre, en tout cas c'est ce que j'ai compris, où tout le monde dans le fond doit se ressembler dans cette grande vague qu'est la mondialisation. Alors un ouvrage plus apaisé que votre livre qui est Charlie, où vous aviez théorisé que la foule qui avait manifesté au lendemain de l'attentat Charlie était une foule, je cite, de cathos zombies bourgeois, plus tarot par une islamophobie que par les droits de l'homme. Alors vous écrivez que nous sommes malheureux parce que nous sommes uniformisés. Pourquoi ?
Pas exactement, c'est une vision un peu radicale de ce que j'ai écrit. Moi je cherche à comprendre ce sentiment d'impuissance qu'on a. C'est-à-dire je ne nie pas du tout l'importance de l'économie, de la politique, de tout ce qui est conscient et de ce qu'on voit le plus en fait quand on regarde les informations. Je dis que si on veut comprendre ce qui est devenu une stagnation des sociétés développées, la baisse du revenu médian aux États-Unis, l'augmentation de la mortalité des Blancs de 45 à 54 ans aux États-Unis, et puis ce qui suit les États-Unis en Europe et ailleurs, il faut aller plus profond dans la structure sociale que la politique et l'économie. Donc je dis il y a un subconscient qui est l'évolution de l'éducation, et en particulier de l'éducation supérieure. Et là, on va tout de suite constater, d'abord, à partir du milieu des années 60 aux États-Unis, à partir du milieu des années 90 en France, un blocage du développement de l'éducation supérieure, blocage de l'éducation supérieure qui a provoqué une stratification nouvelle de la société en supérieure, secondaire, primaire. Et rien qu'avec ça, je dirais, on peut comprendre le pessimisme qui se répand, puisqu'on n'était pas habitué à la stagnation éducative.
Elle crée des frustrations.
L'affrontement populisme-élitisme, puisque maintenant, il y a une masse d'éduqués supérieurs qui se pensent vraiment supérieurs, des éduqués primaires qui sont victimisés. Il y a ça. Et puis, alors, plus en profondeur encore, il y a la religion sous ses formes actives ou sous ses formes zombies, pas seulement catholiques zombies, et en interaction avec encore plus profond la famille. Et là, la diversité des structures familiales du monde permet de comprendre pas simplement les différences qui peuvent exister entre des pays très avancés et des pays en développement, mais même entre les pays avancés. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, l'analyse des structures familiales anglo-américaines d'une part, allemandes d'autre part, permet de saisir un mouvement de divergence culturelle. Le retour, je crois, avec le Brexit, Trump sous des formes semi-xénophobes, à une démocratie libérale fondamentale, et puis au contraire l'accentuation d'une tendance autoritaire sur le continent européen, avec en son cœur l'Allemagne, mais pas seulement en Allemagne.
Pour revenir.
Donc c'est une vision plus riche, mais qui ne se veut pas contradictoire avec tout.
Mais la globalité n'est pas toujours facile à comprendre. Pour revenir à ce qui est, si on l'a bien compris avec Roselyne, l'idée force de votre livre, c'est que le monde va quand même mal globalement et que le modèle économique libéral, qui est le modèle dominant aujourd'hui, va mal, ne fonctionne pas bien, et que tout le monde le sait, le constate, l'analyse, l'explique éventuellement, mais que, comme vous l'avez dit et vous l'écrivez, il y a comme un sentiment d'impuissance aujourd'hui. Voilà. Mais ce sentiment d'impuissance, et que donc on trouverait des explications anthropologiques ou à travers les fondements de l'éducation, de la famille et de la religion. Mais aujourd'hui, ce sentiment d'impuissance, vous l'expliquez comment ? Ça correspond à une on est comme sidéré, pourquoi n'y a-t-il pas de capacité à réagir face à ce système qui ne fonctionne pas?
Ben, si vous prenez la structure sociale, par exemple, ce que je décrivais, structure sociale qui est devenue inégalitaire pour des raisons inhabituelles ou mal analysées. Vous savez, par exemple, on parle de la méritocratie comme d'un idéal, comme de quelque chose qui est formidable, et tout ce qu'on peut faire, c'est faire mieux dans le méritocratique. Mais le méritocratique, comme la méritocratie, le concept est d'un sociologue anglais génial qui, à la fin des années 50, avait forgé le mot meritocracy, c'est un système qui prétend sélectionner dans la population les meilleurs, en masse de plus en plus grande, qui trie la population et qui fonctionne avec une énorme machine inégalitaire qui fait que le concept de démocratie avec lequel on vit devient totalement inopérant. Il n'est plus vrai. Les gens parlent l'impuissance qui nous gouverne, si on peut dire, c'est d'être dans un monde qui emploie des mots qui ont perdu leur contenu. On est dans une société qui, au fond, ne croit plus en l'égalité. Ce que j'appelle academia, c'est-à-dire tout le système universitaire, éducatif, etc., c'est une machine à trier par le conformisme l'humanité, et les gens qui arrivent en haut continuent à parler de démocratie, et dans ce contexte, comment s'étonner de ce qu'on n'arrive pas à mettre en place les protections économiques, commerciales, qui permettraient de sécuriser la situation de l'ensemble de la population.
Mais vous dites quand même que les structures familiales, éducatives, religieuses, vous venez de l'expliquer, prévalent sur l'économie.
C'est pas simplement qu'elles prévalent, c'est qu'elles ont des rythmes, des temporalités différentes et qu'elles sont inconscientes. C'est-à-dire, l'économie existe, il faut gagner sa vie. Je suis un type raisonnable. Quand j'étais gamin, je suis passé par le Parti communiste, j'ai une solide formation marxiste. L'économie, les conflits de classe, tout ça, ça a une réalité historique. Mais les gens le savent, ça. Oui. Si vous voulez, donc les gens agissent en fonction de ce qu'ils savent. Mais par contre, la détermination par l'éducation, comme je l'ai dit pour la méritocratie, les gens ne le savent pas, donc ils n'ont pas l'instrument d'analyse qui leur permettrait d'agir. Et en ce qui concerne les structures familiales, par exemple, les énarques qui nous gouvernent ne savent pas que l'Europe elle-même est en divergence, ne comprennent pas pourquoi l'euro ne marche pas, ne comprennent pas pourquoi Catalogne veut sortir de l'Espagne.
Alors justement, vous n'aimez pas l'uniformité.
Non. Ça c'est très important. Oui. Mon problème n'est pas ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. J'ai des goûts.
Oui, vous constatez.
Quand j'ai écrit Qui est Charlie, j'étais dans une sorte d'engagement citoyen un peu violent, avec une base scientifique. Pour ce livre-là, non, c'est un retour à l'histoire, à l'empêche. Je fais des petites blagues, je peux pas m'empêcher.
Oui.
C'est moins embêtant à lire. Mais je ne prends pas parti. Je suis un empiriste de formation anglaise pour la recherche. Et l'important pour moi, c'est d'accepter la réalité indépendamment de ce que sont mes préférences. Oui. J'ai des préférences.
Oui, mais vous les connaissez d'ailleurs.
Je n'ai pas. Et par exemple, sur la question de l'homogénéisation du monde. La question, je me suis jamais posé la question de savoir si j'étais pour ou contre. En fait, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si elle se produit ou non.
Elle se produit pas. Alors, juste avant de donner la parole à Frédéric, moi, vous avez parlé de la Catalogne, justement. Si on prend comme actualité la Catalogne par son exemple, son profond désir d'être indépendante, vous lisez comment ce mouvement à la lumière de votre thèse?
Alors,
ce désir.
Je dirais que c'est un cas d'école, parce que les structures familiales de la Catalogne, c'est un cas de ce qu'on appelle la famille souche classique patrilinéaire. C'était un système paysan à héritier unique, très bien formalisé et conscient dans l'esprit des Catalans, comme le Pays Basque, comme l'Allemagne, comme le Japon, comme une partie du...
C'était ancienne,
du sud-ouest français. Ouais. Non, il y a d'autres pays où, dans le passé, c'était pas du tout comme ça. Et c'est un système qui transmet des valeurs, je dirais, de différence entre les frères, entre les hommes, entre les pays. Dans le cas de la Catalogne, ça se mélange à quelque chose de très particulier dans la Catalogne médiévale, c'est-à-dire que ce système souche a permis la floraison d'un système de représentation oligarchique, qui a plutôt fait tomber la Catalogne du côté républicain. Donc ça, c'est le contexte général. La Catalogne a une propension tout à fait classique pour un pays souche à penser qu'elle est différente des autres. Les Allemands ont ça, les Japonais ont ça, vous voyez, c'est banal pour un anthropologue, en fait. Et là, ça se passe dans un contexte où l'économie de la zone euro, quoi qu'on dise au jour le jour, est globalement paralysée. Le système étatique espagnol global est paralysé. Il nourrit le désespoir, puisque le taux de chômage reste, je crois, à 18%. Les gens ne pensent que de réduction des déficits. C'est un puits sans fin. Et dans ce puits sans fin ou sans fond, comme vous préférez, l'identité catalane, qui est naturellement forte, sert de valeur refuge. Oui. C'est pas juste qu'ils ne veulent plus payer la sécu des autres. C'est qu'ils veulent instinctivement sortir de ce puits qu'est devenue l'économie espagnole dans la zone euro. Donc ça ne pose aucun problème. Simplement, le problème que ça pose maintenant, c'est que quand on connaît l'histoire de l'Espagne sérieusement et la proportion de l'Espagne à la violence politique, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'Espagne, ça n'est pas le début, le tout début d'une marche à la guerre civile.
Alors, vous avez parlé de ce temps très long, puisqu'au fond, votre ouvrage, il porte sur un temps extrêmement long. Et ce que vous dites, c'est que, d'ailleurs, je vous cite, hein, vous dites, le conscient économique fonctionne à l'échelle de 50 ans, le subconscient éducatif de 500 ans, et l'inconscient familial de 5000 ans. Pour essayer de comprendre, au fond, votre raisonnement, est-ce que ça veut dire que les sociétés et les individus qui les composent sont aujourd'hui, en partie, le fruit de ce qui s'est passé dans ces différents domaines, donc il y a 5000 ans, 500 ans et 50 ans?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est des individus. L'homo economicus existe. Les gens préfèrent gagner plus et travailler moins, même s'ils ont aussi besoin de travailler.
Donc vous voyez bien que l'économie, pour vous, l'économie fait le valeur des hommes, en quelque sorte.
Non, pas du tout. Pas du tout. L'économie est nécessaire, mais simplement, elle fonctionne.
Oui,
mais... Non, mais je veux dire, l'économie...
Quand vous
regardez des populations de chasseurs...
Comment? Pas une économie mondialisée, globalisée.
Non, mais je veux dire, l'économie, il y a toutes sortes d'organisations économiques. Moi, mes conceptions économiques, elles sont banales. Je pense que seul le capitalisme est possible. Je pense que seul le capitalisme apprivoisé et régulé à une échelle raisonnable, c'est-à-dire nationale, peut bien fonctionner. Et je pense qu'avec le capitalisme globalisé, on a été trop loin. Oui. Et c'est ce que les Américains ont montré qu'ils comprenaient en élisant Trump. Mais si on s'intéresse au modèle et au rapport entre l'économie, le subconscient familial, l'inconscient familial et le subconscient éducatif, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'activité économique des hommes en tant qu'individus qui se défendent, qui se battent pour gagner leur vie, se passe à l'intérieur de systèmes culturels, anthropologiques, dont ils ne sont pas conscients. C'est pour ça que l'économie allemande fonctionne autrement que l'économie française.
Dont ils ne sont pas conscients, mais est-ce qu'ils en sont maîtres?
Comment? Je ne sais pas s'ils peuvent s'en rendre maîtres, mais ce qui est sûr, c'est que quand on ne peut pas analyser et comprendre quelque chose, on ne peut pas s'en rendre maître. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si les gens acceptaient de regarder cette réalité anthropologique du monde, la diversité des sociétés, y compris des sociétés avancées, on pourrait tenter une coordination intelligente des aptitudes des diverses sociétés. Mais si on reste dans un modèle de type « tout le monde est pareil, la société n'existe pas », etc., on aboutit à des trucs comme le libre-échange généralisé qui fait baisser la demande globale à l'échelle planétaire et qui crée des crises. Et en Europe, on construit l'euro qui nous colle, en France en particulier, un taux de chômage de 10% éternel.
Emmanuel Tolt, si les gens sont si différents, comment peuvent-ils, ou les pays, ou les économies, tout ce que vous voulez. Les systèmes sociaux, s'ils sont si différents, comment on peut vivre en paix? Les uns avec les autres.
Vous êtes extraordinaire ce que vous dites, parce que vous dites, en fait, vous êtes est différent, on doit se taper sur la gueule. Non! Si on est différent et conscient, si vous êtes anthropologue dans une société avancée, très éduquée, vous pouvez peut-être essayer de faire passer aux gens l'idée que finalement l'homme est une chose fragile, L'homme naît, c'est un animal évolué qui découvre le problème de la mort, qui ne peut plus se contenter d'une simple survie économique. Et vous pouvez voir l'histoire des sociétés et l'histoire humaine comme une tentative, des tentatives très diverses pour donner un sens conventionnel à la vie dans divers lieux. Ça n'est pas le même sens partout. Mais on peut se mettre d'accord sur le fait que plusieurs types sens donnés à la vie dans divers types de sociétés sont, je dirais, tout à fait compatibles si on n'en fait pas une sorte de purée globale écrasée et respectée. Ça n'est pas du multiculturalisme. Je ne suis plutôt pour l'homogénéisation en interne des sociétés. Mais on peut accepter l'idée que des sociétés différentes existent. Enfin, on peut accepter ce que je fais dans mon livre, accepter que la Russie de Poutine soit une démocratie autoritaire qui correspond à certaines traditions du peuple russe. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis qu'on ne peut pas, ça ne sert à rien de se mettre dans une posture où on se raconte simplement que Poutine et la Russie sont
innommables.
Mais finalement,
vous êtes le théoricien du souverainisme.
Non, je n'aime pas trop le mot souverainisme. Et puis, si vous voulez, moi, je suis un peu comme ce théoricien allemand du début de la première moitié du 19e siècle, Friedrich List, qui a fait la théorie du protectionnisme. Je dirais que je suis un national généralisé. C'est-à-dire, j'ai tendance à bien aimer toutes les nations. C'est-à-dire, List, c'était un nationaliste allemand, c'était un nationaliste français quand il vivait en France, c'était un nationaliste américain quand il a vécu aux États-Unis. Et moi, j'ai des préférences, c'est vrai. J'aime la nation américaine, j'aime la nation anglaise, j'aime la France, c'est mon pays, c'est normal. J'ai une passion pour la Hongrie. J'adore le Japon.
Oui, vous en parlez beaucoup.
Et contrairement à ce que disent les gens, j'ai une sorte d'intérêt conjoint pour ces pays que sont la Suède et l'Allemagne. Dans mon bouquin, tout le monde m'accuse d'être germanophobe, etc. Il y a dans mon livre un chapitre qui montre la contribution extraordinaire de l'Allemagne par l'alphabétisation universelle et le protestantisme au décollage de l'Europe. Je pense qu'on peut être, on peut aimer sur un plan, même si on appartient fondamentalement qu'à une seule nation ou peut-être à deux, on peut aimer plein de nations.
Il faut qu'on dise un petit mot d'Emmanuel Macron, parce qu'on arrive au terme de cette émission.
Vous voulez vraiment, ça vous paraît vraiment indispensable?
Vous dites, déjà c'est un élément de réponse. Vous dites que Emmanuel Macron va à l'échec aussi sûrement que François Hollande, mais vous dites sans doute beaucoup plus vite parce qu'il est très rapide.
Oui, mais si vous voulez, je sais pas comment dire, c'est Emmanuel Macron qui a commencé à parler des intellectuels comme si lui-même était un immense savant qui avait tout lu, ce qui est en soi plutôt déplaisant. Comme je dis,
il va vous répondre que vous êtes animé par l'esprit de défaite.
Vous dites que c'est un modeste inspecteur des finances, c'est ça ?
Mais si vous voulez, je vais vous dire franchement, pour moi, Macron, c'est un produit du système français. Il est, je voudrais pas être désagréable, mais le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à lui, c'est franchouillard. C'est-à-dire que moi, j'essaye de travailler dans ce livre. D'ailleurs, il n'y a pas de chapitre sur la France dans mon livre, donc je ne veux pas dire que je cible, etc. Il y a le tiers du livre est sur la dynamique du monde anglo-américain. Il y a un chapitre comparatif sur l'Allemagne et le Japon, un chapitre comparatif sur la Russie et la Chine. Et il y a un effort pour comprendre la dynamique globale de l'histoire humaine en termes de systèmes familiaux depuis la sortie d'Afrique d'Homo sapiens. Je veux dire, c'est une vision large de l'histoire. Alors, le deuxième mot qui me vient, ayant décrit cette vision large, c'est qu'on ne devrait pas l'appeler Macron, mais Micron. Vous voyez, je veux dire, c'est vous qui m'avez demandé. Moi, je voudrais juste dire qu'il ne faut pas.
En 10 secondes.
Je voudrais dire qu'il ne faut pas que les hauts fonctionnaires, car c'est un haut fonctionnaire à l'origine, se mêlent de la vie intellectuelle de leur pays. Ils ne sont pas qualifiés.
Merci, c'est la fin de la première partie de Mardi Politique. On se retrouve dans quelques instants après un point sur l'actualité.
Merci.
Écrire
RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique avec notre deuxième invité, avec Frédéric Rivière, Marlène Schiappa. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci d'être donc avec nous ce soir et d'avoir accepté notre invitation. Alors, les sujets de société vous préoccupent, les violences sexuelles faites aux femmes, l'égalité bien sûr entre les sexes, la PMA, la procréation médicalement assistée. Nous allons bien sûr en parler. Mais je voudrais attirer votre attention sur un sujet sur lequel j'imagine vous avez votre avis. Cette semaine, la romancière Anne Berthe, atteinte de la maladie de Charcot, a été euthanasiée en Belgique. Alors pensez-vous que la France pourrait un jour aller dans ce sens et légaliser l'euthanasie lorsqu'on est atteint d'une maladie terrible, d'une maladie incurable? Quel est votre avis là-dessus?
C'est un sujet qui est éminemment délicat parce qu'il relève de l'intime et il touche à ce qu'il y a de plus profond dans nos sociétés et à ce qu'il y a de plus tabou aussi, puisqu'on est là sur la vie, la mort, le droit à décider de sa mort. C'est quelque chose qui relève quasiment du débat philosophique. Mmh. Donc c'est un débat de société qui s'ouvre et qui revient régulièrement avec la mort d'Anne Berthe, et on ne peut qu'adresser toutes nos pensées à sa famille. Après, la ministre de la Santé et des Solidarités a indiqué que ça n'était pas un sujet qui était pour l'instant à l'ordre du jour dans les débats du gouvernement.
Oui, mais vous avez un avis personnel sur cette question?
Moi, j'ai comme chaque personne, en tant qu'individu, une intime conviction sur ce sujet, et je sais quels sont les choix que je ferai pour moi, mais je n'ai pas vocation à exprimer une position du gouvernement sur ces sujets.
Mais est-ce qu'il faudrait modifier quand même un petit peu cette loi qu'on a aujourd'hui, la loi Leonetti, qui n'autorise qu'une sédation profonde jusqu'au décès uniquement pour les soins palliatifs? Est-ce que vous comprenez que certaines personnes souhaitent mourir quand ils ont une maladie terrible, ils sont obligés d'aller en Belgique? Et d'ailleurs, on peut lire l'interview d'un médecin en Belgique qui dit que ce serait bien que les Français changent leur loi.
Oui, bien évidemment, je le comprends. Je pense qu'on ne peut que le comprendre humainement. Moi, j'ai eu des échanges assez étroits avec une association qui s'appelle l'ADMD pendant des années pour débattre justement de ces sujets. Donc, je pense qu'il y a là un véritable enjeu et un véritable débat de société qui est sur la table et que nous devons avoir.
Alors, vous avez présenté il y a quelques jours votre feuille de route pour les 5 ans à venir. Si toutefois vous êtes pendant 5 ans au gouvernement, parce qu'on n'est jamais sûr de ce genre de choses, vous le savez.
Absolument. Je suis informée.
Et votre priorité, il y en a plusieurs, mais enfin celle que vous avez nommée en premier, c'est la lutte contre les violences sexuelles. Qu'est-ce que vous incluez d'abord dans les violences sexuelles? De quoi parle-t-on? Ça n'est pas que le viol, j'imagine.
Alors effectivement, on a deux axes prioritaires, l'égalité professionnelle et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ce qu'on a très longtemps appelé les violences faites aux femmes. Oui. Il y a en réalité, effectivement, vous avez raison de le préciser, un nombre de violences protéiformes. J'étais par exemple ce matin avec l'association Droits d'urgence à Paris dans le 20e, qui m'indiquait qu'il y a souvent des violences administratives qui sont faites aux femmes, c'est-à-dire le fait de leur confisquer par exemple leur passeport, leur papier, pour qu'elles ne puissent plus changer de pays ou simplement quitter l'homme avec lequel elles vivent. Il y a des violences dites intrafamiliales, dites conjugales, dans un couple, dans une famille. Puis il y a aussi les agressions sexuelles, le viol et bien sûr le harcèlement de rue, dont on parle beaucoup, puisque j'ai installé un groupe de travail de députés pour justement caractériser et punir et verbaliser le harcèlement de rue, qui est le fait de suivre et d'intimider des femmes dans l'espace public.
Alors là-dessus, j'ai une petite question. Ça arrive à toutes les femmes, bien sûr, dans la rue, de se faire agresser verbalement. Cela dit, concrètement, on fait comment? C'est comme une infraction d'infraction de la route. Il faut avoir des gendarmes qui vous courent après ou un radar. Là, si vous n'avez pas de policier sous la main, vous faites quoi? Vous courez après le type et vous lui dites donnez-moi votre nom, je vais porter plainte. Et vous, je ne vois pas bien comment c'est possible.
Bien sûr, c'est pour ça qu'on est en train d'installer un groupe de travail. Mais vous avez dit une phrase qui est extrêmement intéressante. Vous avez dit ça arrive à toutes les femmes de se faire agresser agresser verbalement dans la rue. Justement, c'est justement pour ça qu'il y a une urgence à agir, parce qu'on est en France et on ne peut pas tolérer qu'en France, on considère que ce soit une forme de fatalité ou de fatalisme que les femmes se fassent poursuivre ou agresser dans la rue. Là, l'idée, c'est d'aller vers du flagrant délit, puisque l'idée, c'est qu'on ait des amendes pour verbaliser le harcèlement de rue. C'est le principe, effectivement, du flagrant délit. C'est l'idée qu'il y ait des policiers en patrouille, mais cette verbalisation, elle a deux objectifs. Le premier, effectivement, qu'il y ait des amendes via du flagrant délit quand des policiers sont là, évidemment, par définition, mais des policières et des policiers seront là et seront renforcés, comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur, d'une part. Et d'autre part, l'idée, c'est d'avoir valeur d'exemple et de dire le droit. De dire que dans la République française, on ne peut pas considérer qu'il y ait cette forme de zone grise entre la séduction consentie d'un côté et l'agression qui, elle, est déjà caractérisée dans la loi, l'agression sexuelle de l'autre, ou l'injure publique qui est aussi caractérisée dans la loi, et qu'il y ait cette forme de zone grise et qu'on ne dise pas que c'est interdit de harceler les femmes dans la rue.
Mais enfin, vous imaginez bien que là où il y a des policiers, celui qui a l'intention d'être grossier ou vulgaire avec une femme ne va pas le faire.
Mais non, c'est pas le cas actuellement. Quand on regarde ce qui se passe
actuellement...
Non, mais
vous dites, pour pouvoir verbaliser, il faut qu'il y ait des policiers. Celui qui a, encore une fois, l'intention d'être grossier, d'avoir un comportement déplacé, ne le fera pas en présence de policiers.
Non, moi je vous trouve extrêmement optimiste, et tant mieux, à la limite, si à chaque fois qu'il y a un policier pas loin ou à l'œil, ça veut dire qu'il n'y a pas de harcèlement de rue, tant mieux, mais ça n'est pas ce que nous constatons actuellement. Ce que nous constatons actuellement, c'est que le manque, ça n'est pas tant le manque de policières et de policiers, le manque, c'est le manque de loi, le manque de droit. C'est-à-dire qu'actuellement, même si un policier, une policière constate du harcèlement de rue et constate qu'une femme est suivie sur 3-4 rues, même si le policier ou la policière veut intervenir, en réalité, il ne le peut pas. Puisqu'il n'a pas de levier de droit. La personne qui suit la femme va dire « c'est mon droit de suivre une femme dans la rue ». Et il aura raison à l'heure actuelle, dans la loi, au regard de la loi, puisqu'actuellement, ça n'est pas caractérisé.
Alors pour en revenir à la première question de Frédéric sur les violences sexuelles, vous dites vouloir l'éradiquer. Alors c'est comme si on voulait un peu éradiquer les maladies ou le mauvais temps, etc. C'est ancré, bien sûr, c'est pas pour ça que c'est tolérable, bien évidemment, mais ça se passe parfois au sein des familles, vous venez de le dire, au sein d'un couple, et vous ne voulez pas forcément faire une loi de plus. Donc comment éradiquer des comportements internes à des familles, etc. Sur quel levier vous allez vous appuyer?
C'est un véritable sujet. Alors d'abord, oui, effectivement, l'idée, c'était d'avoir une volonté politique forte et affirmée, et de dire qu'on veut effectivement éradiquer les violences sexistes et sexuelles, et non pas juste les tolérer, parce que sinon, ça veut dire qu'à partir de quel taux c'est tolérable? Actuellement, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. On ne peut pas dire que notre objectif, c'est qu'il y ait une femme qui ne meurt que tous les 5 jours sous les coups de son conjoint. Donc oui, notre volonté politique, elle est forte et elle est affirmée. L'enjeu, c'est d'impliquer avec nous toute la société. C'est pour cette raison que demain, le Premier ministre va lancer le Tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'enjeu, c'est d'aller partout en France avec tous les ministres pour recueillir la parole des femmes sur ces sujets. La plupart des ministres vont faire effectivement des déplacements partout en France dans le cadre de ce Tour de France qui se terminera par une forme de forum européen dans lequel nous allons partager justement ces politiques avec mes homologues européens. En ce qui concerne les violences intrafamiliales, l'enjeu pour nous, c'est d'impliquer toute la société. Parce qu'on voit que quel que soit le gouvernement en France, qu'il soit de droite, de gauche, qu'ils mettent beaucoup de moyens, peu de moyens, ce nombre de femmes tuées chaque année ne change pas. Ça veut dire qu'en réalité, les pouvoirs publics font beaucoup, peuvent faire encore plus, et c'est ce que nous allons faire, mais c'est toute la société qui doit intervenir. C'est au-delà d'un spot, effectivement, c'est une vaste campagne de communication qui brise les codes institutionnels en direction des hommes. Parce que plusieurs études, notamment d'Amnesty International, nous montrent que l'immense majorité, notamment des violeurs, n'ont aucune pathologie mentale et que la plupart des viols sont prémédités. Ça veut dire qu'en réalité, ce sont des personnes saines d'esprit qui infusent dans cette dite culture du viol, à qui nous pouvons parler, que nous pouvons éduquer. C'est aussi pour cette raison que nous faisons une journée dans le cadre du service national et civil, ça fait partie des axes de mal-être de mission que de construire une journée contre les violences sexistes et sexuelles.
Il n'y aura pas une nouvelle loi? Y aura-t-il une nouvelle loi?
Il peut y avoir des nouvelles lois, notamment le harcèlement de rue, le fait de le verbaliser, ça passe par un véhicule législatif, absolument.
Est-ce que le travail, c'est pas aussi en termes d'éducation qu'il doit se passer à l'école, mais peut-être même plus tard, y compris pour des adultes, pour faire... je parle, moi, je suis le seul homme sur ce plateau.
Vous êtes notre quota, hein, en quelque sorte.
Voilà. Mais il y a des hommes, sans doute, qui ont parfois des comportements déplacés, qui peuvent être vécus comme agressifs par une femme, sans qu'ils ne s'en rendent compte et sans avoir l'impression d'avoir été trop loin. Peut-être il y a là un travail d'éducation à faire, non ?
Bien sûr, je partage complètement ce que vous dites. C'était au cœur des travaux de recherche que j'ai publiés dans un livre qui s'appelait « Où sont les violeurs ?» puisque je suis partie du constat qu'effectivement, même si beaucoup de femmes disent avoir été agressées sexuellement ou violées, on trouve, il est rarissime qu'on trouve des hommes qui comprennent avoir agressé sexuellement ou avoir violé. Donc nous devons commencer par définir ce qu'est l'agression sexuelle et par définir ce qu'est un viol, par définir la notion de consentement. Et je partage complètement cette priorité d'éducation. C'est pour ça que nous sommes en train de construire des dispositifs avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a affirmé à plusieurs reprises que les priorités de l'école de la République, c'était lire, écrire, compter et respecter autrui, ce qui est extrêmement important, et que nous construisons cette journée au niveau du service national et civil qui formera toute une classe d'âge, et qu'au-delà, nous allons véritablement vers une campagne très large dans le cadre de la grande cause nationale du quinquennat du président de la République, qui est l'égalité entre les femmes et les hommes, pour s'adresser effectivement aux hommes directement.
Alors le sujet qui va arriver très vite, ou peut-être pas d'ailleurs, vous allez nous le dire, c'est celui de la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes et les couples de femmes homosexuelles. C'est vous qui l'avez annoncé un peu précipitamment au goût de certains. On a senti une forte réticence de la part de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui a déclaré que ce n'était pas une priorité. Et Emmanuel Macron, qui a dit qu'il n'était pas question de piétiner les convictions et les conscience, donc il faudra attendre le rapport des états généraux de la bioéthique, mais est-ce que vous avez l'impression que les Français sont mûrs pour ce débat-là ? Est-ce qu'effectivement c'est une priorité ?
Pour répondre d'abord à la fin de la question, oui, puisqu'un sondage IFOP nous a montré que plus de 64% des Françaises et des Français étaient favorables à la PMA. Mais pour répondre au début, je ne l'ai ni annoncé, ni précipitamment. Je ne l'ai pas annoncé dans la mesure où depuis le mois de juin, plusieurs ministres, Agnès Buzyn, qui est en charge de la PMA, la ministre de la Santé et des Solidarités, mais également Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, à différentes reprises ont déjà annoncé quel était le calendrier de la PMA. Moi, j'avais même répondu à une question au Sénat le 20 juillet, précisément, en rappelant ce calendrier et ces états généraux de la bioéthique. Donc en réalité, je n'ai fait aucune annonce en ce qui concerne la PMA. J'observe en revanche que c'est un sujet qui veut être mis à l'agenda dans l'agenda médiatique, qui n'est pas effectivement pour l'instant à l'agenda politique puisqu'on parle de l'automne 2018. Mais vous voyez comme à chaque fois on y revient. Moi, je suis venue sur votre plateau pour vous parler de l'Europe des droits des femmes et de la façon dont la France va porter une voix, façon dont la France va porter une voix sur les droits des femmes dans le monde, et nous revenons à la PMA. Alors moi, j'ai grand plaisir à débattre de la PMA. Bien volontiers, et à réaffirmer l'engagement de campagne du président de la République sur le fond. Nous proposons d'ouvrir la PMA et sur la forme, dans le cadre d'un grand débat, comme il l'a lui-même indiqué, avec des états généraux de la bioéthique. Mais moi je ne suis qu'en deuxième ligne sur ce sujet, c'est la ministre de la Santé qui porte ce dossier. Et deux, c'est effectivement au moment de l'automne 2018, et il y a une solidarité gouvernementale quant à ce sujet.
Alors c'est vrai qu'on était quand même un peu... C'était un passage obligé pour vous poser cette question.
C'est pour ça que je vous ai répondu.
Je crois que nous avons notre réponse.
Donc peut-être d'un mot tout de même sur le sujet. Vous avez vu l'échange entre Édouard Philippe la semaine dernière et Jacques Testard, l'un des pères de la procréation médicalement assistée. Comment vous avez trouvé cet échange ? Est-ce que vous n'avez pas senti le Premier ministre un peu mal à l'aise ?
En aucun cas. Moi, j'ai trouvé que
Alors, l'unanimité des chroniqueurs, des spécialistes de la vie politique l'ont trouvé peu clair.
J'entends, mais vous me demandez mon opinion,
c'est
vous la donne.
C'est que je demande, en effet.
Voilà, moi j'ai trouvé au contraire que c'était extrêmement intéressant que d'avoir un débat de fond, et le Premier ministre nous a montré qu'on pouvait avoir un débat calme, apaisé et serein sur la PMA, y compris en assumant un certain nombre de désaccords, comme il l'a fait, et qu'on pouvait débattre de ce sujet qui, au fond, tout comme le sujet que vous évoquiez tout à l'heure, du droit à mourir dans la dignité, relève de l'intime de chaque personne et se retrouve à la croisée des sujets de la vie, de la mort, de la vie de chacun, de la vie amoureuse, qui pose un certain nombre de débats de société. Donc j'ai trouvé très intéressant de voir qu'on pouvait avoir, au fond, un débat profond, de fond, sans caricature et sans forcément le politiser sur ce sujet de la PMA. Mais ce qui me semble important de rappeler, c'est que la PMA, on le fait pour les femmes et non pas pour enlever des droits à qui que ce soit, mais bien pour faire en sorte que les femmes puissent bénéficier toutes du même droit.
Si on le fait pour les femmes, est-ce qu'il ne faudra pas le faire pour les hommes aussi ?
Non, parce que pour les femmes, on l'ouvre puisqu'il y a actuellement une situation de discrimination entre les femmes elles-mêmes. Vous savez qu'en France, les femmes qui sont mariées avec un homme ont accès à la PMA. En revanche, les femmes qui sont mariées avec une femme ou qui sont célibataires n'y ont pas accès. C'est là que se trouve la discrimination. Ça n'est pas par rapport aux hommes. Et la GPA ne sera pas proposée par le gouvernement pendant ce quinquennat.
Mais la discrimination homme-femme, vous y êtes sensible aussi ?
C'est un des cœurs de mon enjeu, mais là...
Bah, parce que là, vous dites, bah oui, non, mais là, il y a une discrimination entre femmes. Donc, alors, c'est ça, pour c'est... ça qu'on pourrait le faire. Mais ça créerait après une discrimination homme-femme.
Non, c'est pas une discrimination, c'est une inéquité. Mais là, on va retomber dans un débat peut-être un peu philosophique, ouais, mais non. C'est plus une inéquité. On pourrait dire aussi que c'est une inéquité que les hommes n'accouchent pas et pourquoi les hommes n'accoucheraient pas. Si vous voulez, on peut aller très loin dans ces débats. Là, l'idée, c'est vraiment de dire qu'on ouvre la PMA pour un enjeu, qu'on propose en tout cas d'ouvrir la PMA, pour un enjeu d'égalité entre les femmes, comme ça a été relevé par le Conseil national d'éthique.
Vous voulez continuer?
Non, juste d'un mot, vous savez ce que disait une militante homosexuelle des années 70, que vous devez connaître, qui présidait un mouvement qui avait été créé à cette époque, qui s'appelait les Gouines Rouges, et qui disait « L'impossibilité d'avoir des enfants pour les homosexuels est une limitation intrinsèque qu'il faut savoir accepter. »
C'est son opinion, je la respecte.
Alors, si vous vouliez qu'on revienne dans le fond sur le tour, il y aura ce Tour de France, vous nous l'avez expliqué, mais aussi un tour européen, vous voulez vous inspirer notamment de certains pays pour lutter contre ces violences, voir ce qui se passe chez nos voisins, mais aussi partager les mêmes dispositions, notamment en matière d'égalité professionnelle. Quels sont les pays, par exemple, qui vous inspirent et qu'on pourrait éventuellement, non pas copier, mais en tout cas imiter sur cette égalité homme-femme dans le milieu professionnel.
Je pense qu'au sein de l'Europe, l'idée c'est d'avoir une véritable coopération avec tous les pays européens, et j'englobe le Royaume-Uni dans ces pays, puisque je reviens d'un déplacement à Londres, où j'ai rencontré notamment mon homologue et un certain nombre d'organisations et d'associations. Effectivement, on s'aperçoit que l'idée, c'est dans ce tour d'Europe que j'ai initié et que nous allons conclure avec Nathalie Loiseau, la ministre déléguée en charge des affaires européennes. L'idée, c'est d'abord effectivement nous inspirer les pays les uns les autres pour partager nos bonnes pratiques. Par exemple, en termes de name and shame, le Royaume-Uni pratique le name and shame des entreprises qui ne respectent pas l'égalité professionnelle de longue date. Donc c'est intéressant pour nous d'avoir ces retours d'expérience. En revanche, la France a cette culture de la loi, puisque nous, ça fait plus de 30 ans que nous avons des lois sur l'égalité professionnelle qui sont intéressantes à partager. Et l'idée, c'est de se fixer des objectifs communs. Par exemple, en termes de femmes engagées dans les nouvelles technologies, il y a là un défi à relever. Il y a des emplois qui ne sont pas pourvus actuellement dans les nouvelles technologies. Et ça, c'est un défi mondial. J'ai rencontré des Saoudiennes tout à l'heure qui étaient en visite en France, qui m'ont dit qu'elles partageaient également ce défi, des postes dans les nouvelles technologies qui ne sont pas remplis, qui ne sont pas pourvus. Et paradoxalement, très peu de femmes dans les nouvelles technologies. Une étude menée par GenderScan présentée cette semaine nous montre qu'il y a un recul dans l'orientation des femmes dans les filières technologiques, scientifiques et digitales. Donc c'est un vrai enjeu mondial que de former des femmes au digital, aux nouvelles technologies. Et j'ai travaillé avec Mounir Majoubi, mon collègue secrétaire d'État au numérique, pour faire en sorte de pourvoir ces offres d'emploi de haut niveau dans les entreprises, dans la tech. C'est véritablement un enjeu de croissance économique mondiale, en réalité, que l'inclusion des femmes dans le marché du travail.
Et sur les violences sexuelles, on y revient, puisque c'est votre grande cause, dans le fond. Est-ce que vous avez été inspiré pareil sur d'autres pays pour la lutte contre ces violences sexuelles?
Totalement, on regarde ce qui se fait à l'étranger. La Belgique, par exemple, avait pris avant nous une loi pour interdire le harcèlement de rue. Et c'est extrêmement intéressant de regarder ce qui s'est passé dans la société, puisque la Belgique avait une loi qui voulait qu'on aille déposer une plainte contre le harcèlement de rue. Et là, c'est de mon point de vue l'écueil à éviter pour nous. Et c'est pour ça que nous avons choisi de nous orienter vers un flagrant délit et vers une verbalisation pour éviter aux femmes le passage dépôt de plainte. Oui. Donc on regarde effectivement ce qui se passe dans tous les autres pays et comment on réussit à mobiliser fortement sur ce sujet. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a des progrès, c'est parce que les pouvoirs publics ont impulsé une politique volontariste, mais que l'ensemble de la société s'est engagée pour dire qu'elle refusait ce taux de violence sexuelle encore trop élevé.
Vous n'avez pas parlé de l'oppression dont sont victimes certaines femmes et certaines très jeunes femmes parfois, dans un certain nombre de quartiers, liés à l'islam radical. Ça veut dire que pour vous, ça n'est pas une priorité ou...
Non, il y a beaucoup de sujets dont je n'ai pas parlé, parce qu'on a beaucoup parlé de la PMA, mais je pourrais parler de tous les autres sujets.
Sur ce point précis...
C'est bien évidemment une priorité.
Parce que, par exemple, on a vu que Caroline Fourest vous reproche d'être un peu laxiste sur la question.
Non, en aucun cas. Si vous avez lu mon entretien avec Caroline Fourest dans Marielle, nous disons justement que nous avons un certain nombre de visées communes, et je ne pense pas qu'on me reproche mon laxisme, bien au contraire, puisque la première campagne que j'ai voulu prendre en tant que secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'était une campagne contre l'excision. Parce que 53 000 femmes en France vivent excisées, et c'est effectivement l'idéologie obscurantiste de façon générale, et particulièrement l'idéologie radicalisée de l'islamisme, qui vise à dire qu'il serait normal d'effacer déplacer les femmes de l'espace public. C'est pour cette raison que je soutiens des associations, comme une association à Toulouse qui mène une opération tout en terrasse pour que les femmes reviennent à la conquête des terrasses des cafés, parce que vouloir effacer les femmes des terrasses des cafés, des bars, de l'espace public, c'est à terme tout simplement vouloir qu'elles restent chez elles et vouloir les effacer tout court.
Merci, je crois que nous arrivons au terme de cette émission, Roselyne.
Absolument.
Merci à vous.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Frédéric. Et puis merci à Charlotte Thurien, à Thomas K et à Audrey Yatoni d'avoir préparé cette émission. Et bien sûr à toute l'équipe technique pour l'avoir réalisée. Merci et à très vite sur France 24.